SimonLaberge.com, un marché qui continue de gonfler cette année. Les observateurs sont surpris, mais à Québec, c'est vraiment ce qui va continuer de perdurer en 2026, un marché qui est à votre avantage. Mais on veut le faire vite et bien quand on vend notre maison. On veut que ça se fasse évidemment à notre avantage et on veut travailler avec les meilleurs. Puis c'est normal. Les numéros un au palmarès Via Capital, c'est les professionnels passionnés de l'équipe de SimonLaberge.com, des spécialistes de l'immobilier et le réseau de contacts incontournable pour vous permettre de vendre vite et bien. Le prix médian de l'unifamilial, toujours en forte progression. On est présentement dans les rares régions du Québec où c'est encore le cas. Ça veut dire que votre maison continue de prendre de la valeur. Pour vendre votre maison à votre goût, avec le prix du marché et peut-être encore mieux, on fait affaire avec les meilleurs. SimonLaberge.com, SimonLaberge.com. On a eu de la belle visite en début d'après-midi, 17h10. Roger Ferland, qui est un chroniqueur régulier à Boulevard 102.1 depuis quelques années déjà. Et j'ai eu le plaisir d'enregistrer avec lui un podcast sur Opération Scorpion. Il a été un des acteurs principaux de cette période d'actualité trouble à Québec. On avait eu beaucoup de plaisir. Je pense qu'on avait eu beaucoup d'émotions aussi à se replonger là-dedans. C'est un podcast qui est disponible dans la série des grands événements un peu partout sur nos plateformes de diffusion, la chaîne YouTube, les services de streaming aussi. Et on recommence les enregistrements des podcasts des grands événements. Et Roger Ferland est revenu aujourd'hui, mais pour parler de la guerre des motards, qui a été un chapitre très sanglant qui s'est déroulé à la grandeur de la province de Québec, mettant entre autres en vedette le sinistre Maurice Mom Boucher. Ça a vraiment été intéressant. J'ai appris un paquet de choses. Je pense que vous allez apprendre un paquet de choses aussi. Pour les gens qui l'ont manqué ou des gens qui sont arrivés pendant la conversation, c'est des podcasts qu'on va être en mesure de vous présenter au mois d'avril prochain. Puis à partir de ce moment-là, c'est des podcasts qui vont être disponibles aussi sur nos plateformes.
Est-ce que, parce que je comprends que l'audio n'est pas disponible sur le réécouter là.
Exact.
Parce qu'il va l'être au moment des podcasts.
C'est ça. C'est ça, Audrey?
Oui.
C'est ça.
Okay. T'as bien compris, Gab.
Oui, ben ça en fait un. Ça en fait un. Habituellement, moi, je comprends
c'est
rien. Puis parlant de podcast, ce soir, c'est un podcast hors série à 19h après la classique du lundi avec Marceau et Maître Marc Bellemare. Ce soir, je me gâte. J'ai vraiment décidé de sauter dans le vide tout seul comme un grand garçon et de vous parler d'un album que j'adore, que je considère comme un des plus importants de l'histoire du rock. C'est les 50 ans de l'album Wish You Were Here de Pink Floyd. Puis quand on a commencé à parler de podcast dans l'univers des radios, la première idée, en fait la seule idée de podcast que j'avais, c'était ça. C'était de partir un album, puis de parler par-dessus, raconter l'histoire, l'enregistrement, tout ce que je savais. Puis le podcast se termine au moment où l'album se termine. Fait que c'est une écoute, dans le fond, qu'on fait ensemble. Puis je radote tout ce que je sais au fur et à mesure qu'on écoute l'album ensemble.
C'est quand même une très belle formule.
J'avais hâte de le tester moi-même tout seul. C'était la première fois que je faisais ça. Comment vous allez trouver ça? Vous me le direz, OK? Bon, pas bon, je suis capable d'en prendre. 418-971-1021 ou allez m'envoyer des messages ou un paquet de bêtises sur le Messenger de mon Facebook.
T'es vraiment confiant, c'est le fun.
Non, moi, j'adore ça. Puis j'écouterais ça à la radio personnellement. Mais je sais pas si ça a du sex appeal. C'est à vous autres de me le dire.
Pour les passionnés de musique, je pense que oui. Rends-le un podcast pour tout le monde. Là.
J'essaie de faire ça, pas seulement pour mon oncle qui trippe Pink Floyd beaucoup, beaucoup. Là. J'essaie de conter des histoires pour que ce soit intéressant pour tout le monde.
Je vais essayer de l'écouter.
Ouais, essaye donc.
Parce que tu sais, je trippe très musique.
Si tu te rends pas à la fin, là, ça changera pas notre relation.
Non,
hein?
Je pense que je peux être un bon public parce que si tu trippes pas sur Pink Floyd, mais que t'aimes la musique, je pense que tu peux te retrouver dans ce genre de podcast-là, comme quand t'écoutes un documentaire sur la musique sur les plateformes de streaming.
Mais là, c'est la première fois que tu fais ça?
Ouais, je l'avais fait une fois avec mon chum Antoine, qui est très volubile, puis qui a un paquet de connaissances aussi. Sauf que pour Wish You Were Here, il m'a dit l'album, je l'aime pas tant que ça. Hein? Je m'assoirais avec toi, puis je te regarderais, je t'écouterais. Tant qu'à ça,
va rester dans mon studio, m'a écouté, mec, soit disponible. Fait que j'ai décidé de plonger tout seul parce que je tenais à le faire.
C'est plus dur, seul.
Ben, c'est pas évident. Je suis pas habitué. T'sais, j'ai toujours admiré ça d'André Arthur. André Arthur était capable de bâtir de quoi tout seul. Moi, j'aime pas ça travailler tout seul à radio. J'aime ça travailler avec une équipe. J'aime ça quand il y a de l'interaction. Ça nous amène ailleurs.
Je trouve toujours impressionnant les animateurs de radio musicale.
C'est ceux qui ont le temps de bâtir quelque chose. Ouais. Là, parler tout seul une demi-heure, je me trouverais tout seul longtemps.
T'aurais aimé ça, grave.
Ouais, je sais.
Vous êtes bon, là. Vous êtes bon week-end avec la musique pis tout, là.
Mais t'as pas écouté la zone New Country souvent, là.
Je l'écoute beaucoup.
Pour c'est à quelle heure, ça, les fêtes de semaine?
10h, juste après le Rock and Chill.
Il est venu ici de plugger son stuff.
Ouais, c'est ça, ben oui, check-le aller.
Fait que ce soir, 19h, on parle de l'album Wish You Were Here, un album emblématique de Pink Floyd, de podcast hors série présenté par nos partenaires du Chaloux, ou plutôt des Chaloux de la grande région de Québec, Sainte-Catherine, La Jacques-Cartier, Beauport et secteur Saint-Émile. Merci, plus de 1000 sortes de bières pour tous les goûts, de la micro d'exception à la bière de soif parfaite, un paquet de produits sans alcool également. Puis je vous le répète, souvent parce que c'est vrai, depuis le début de Gravel dans le retour, Chaloux est là. Puis à chaque fois qu'on a eu besoin de quelque chose, ils ont répondu présent. Quand on s'est lancé d'un podcast, ils ont répondu présent. Quand on a changé de poste, littéralement, ils ont répondu présent. Ils ont toujours été là, les gens de Chaloux, avec nous autres. Je l'apprécie énormément.
Tu vois, il y a Joe qui nous écrit au 88-971-101 puis qui dit qu'il l'écoutait, lui, Dark Side of the Moon, 3 fois. Puis il dit ça s'écoute très bien.
3 fois?
Il voulait, hein?
À la troisième fois, as-tu compris les jokes ou... C'est pas vrai. Je l'ai réécouté, Dark Side of the Moon, puis moi, je le trouvais trippant.
Tu t'écoutes?
Rarement. Mais vu que ça parle de musique, puis que c'était avec mon chum Antoine, je voulais le réécouter. Ouais. Je déteste me réécouter. Quand je m'entends dans les annonces, je change de poste.
Ouais, je comprends.
Les enfants disent, pourquoi tu changes de poste? C'est toi, radio. Ben c'est ça.
Ah. En même temps, on va être honnête, là. On a réécouté, mettons, le podcast de l'amour notre partie 3.
Oui.
Puis on est vraiment douchebag, Gab, parce qu'honnêtement, on a ri à une couple de reprises.
Dit que j'ai réécouté notre troisième podcast sur l'amour?
Non, je ne l'ai même pas réécouté. Ben, je l'ai écouté quand il a été diffusé.
Je l'ai écouté sur YouTube au complet pour la première fois. Je nous ai trouvé bons. C'est des sujets qui sont pas évidents à aborder. On parle d'amour, on parle de nos défis personnels, on parle de nos couples. T'as parlé de ta séparation, t'as parlé de ton nouveau couple. Véro, qui est très, très, très réservé, nous a parlé de son nouveau chum puis comment est-ce qu'elle est tombée en amour. Je nous ai trouvé surprenant. C'est un bel exercice.
Il y a du beau chemin qui s'est fait en 4 ans, disons.
Vous aviez réécouté le premier que vous aviez fait, v'là quoi, 4 ans?
C'est ça, exact.
C'est ça. Il y a 4 ans, on l'a fait en 2 parties. Fait que tu avais vraiment 2 épisodes de 45 minutes.
Puis le constat, 4 ans plus tard, c'était quoi? Tu trouvais ça cringe un peu? T'étais comme.
On t'est rendu ailleurs.
C'est passé beaucoup de choses depuis. Je pense que tu as une vision qui est différente aussi. Je vais parler vraiment pour moi, mais quand on a enregistré les 2 premiers épisodes, tu sais, j'avais 24. Je venais d'avoir 25 ans, 24 ans, 25 ans dans ces eaux-là. Puis tu sais, ta vision, on dirait, est totalement différente, même si c'est juste il y a 4 ans, puis il s'est passé beaucoup de choses depuis.
Il y a quelque chose de soulageant, par exemple, de voir qu'on évolue.
Ah, ça, oui.
Tu sais, si tu écoutes quelque chose que tu as fait il y a 4 ans, puis tu te dis, je suis exactement à la même place, moi, je trouve pas que c'est un constat intéressant, mais de voir qu'en 4 ans, on a des réflexions supplémentaires, que nos situations ont évolué, ont changé, de voir qu'il y a certaines affaires qui restent, par exemple. Tu sais, Véro, qui était la célibataire la plus endurcie de la gang, qui parlait avec confiance qu'elle allait le rencontrer, son gars, mais qu'elle attendait le bon, puis qu'elle était exigeante, puis ci, puis ça, mais qu'elle était persuadée qu'elle finirait pas sa vie toute seule, puis que ça faisait pas partie de ses stress, de réécouter ça, 3 ans et demi plus tard, à la lumière du fait qu'elle est tombée en amour, comme probablement jamais tombée en amour depuis son adolescence, il y a quelque chose de beau là-dedans aussi.
Tu parles de Véro, mais moi, de voir un Don qui, il y a 4 ans, était dans une période de célibat avec la fille avec qui il est en ce moment, qui partage sa vie, de voir qu'il était dans une période difficile où il nous a parlé de tromperie, entre autres, d'infidélité à cœur ouvert quand c'est pas des sujets faciles, de voir un gars qui pensait qu'à 90%, il allait finir sa vie seule. quatre ans plus tard, en amour bien établi, en couple avec sa blonde, tu sais, je trouve que...
T'as redescendu un peu le pourcentage.
T'as 70.
Ouais,
non,
c'est ça.
Non, mais je trouve ça hot parce que, tu sais, là, on parle de nous, mais c'est ça que moi, j'ai envie que les gens retiennent, c'est que c'est pas un podcast où on veut s'entendre parler. C'est un podcast, j'ai l'impression, où t'as trois individus avec trois histoires complètement différentes.
On parle de la vie.
Oui, c'est ça. Des questions qui se posent, puis j'ai l'impression que tu peux te reconnaître dans certaines de ces histoires-là, de ces visions-là.
C'est des conversations humaines, puis, tu sais, nous autres, on est comme condamnés à tout le temps parler de l'actualité, mais le podcast permet ça, des fois, de s'éloigner de ça aussi un peu, puis de faire autre chose complètement. Donc, c'est des podcasts
puis
qui
Max
sont...
Max Larouche, je ne reçois pas un invité à ça.
On va attendre. Okay. On va attendre un petit peu.
Probablement un bon 20 ans.
Okay, c'est bon.
On va attendre qu'il gagne en maturité.
Moi, c'est celle-là que j'écouterais, là, mais en tout cas...
Hey, les podcasts qui sont tous disponibles donc sur nos multiples plateformes. Il est 17h19. On allait se lancer en nouvelles. C'est ce qu'on va faire, finalement. On va se rendre. On a fait une couple de détours, là, mais on s'est rendu. D'ailleurs, parlant de détours, est-ce qu'il y en a à faire dans la circulation aujourd'hui?
Quelques-uns. Si vous êtes sur la capitale, direction Est en ce moment, encore quelques ralentissements à prévoir. Entre Robert Bourassa, je vous dirais, et Pierre Bertrand, précisément. L'entrée des ponts, il y a encore un léger ralentissement. Sinon, c'est la 20 Ouest, hauteur Taniata. Pour le reste, ça va. Autre chose, 88-971-102 texto.
Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se brasse dans l'actualité et les news en cette fin de journée, lundi 23 février.
On a reçu une communication de la Coalition Avenir Québec, puis soit je l'ai manqué ou encore c'est une nouvelle information, mais le souhait de Bernard Drainville est exaucé. Un autre débat s'ajoute.
Trois, donc?
Oui, parce que le 28 février, il y en aura un sur la plateforme YouTube. Formule questions-réponses provenant de l'aile jeunesse du parti et de jeunes des quatre coins du Québec. Le modérateur, c'est Dimitri Soudas, sera chargé de poser les questions et donc ça va être le 28 février sur YouTube pendant une heure. Donc, à ce que j'en comprends, c'est une nouvelle information. Au départ, Christine Fréchette avait complètement fermé la porte à cette avenue, mais finalement, on change d'idée parce que du côté de Bernard Drainville, l'argumentaire, c'était de dire, là, on fait les débats, mais après la période d'inscription de membres de la CAQ, parce que ça se termine le 13 mars de mémoire, et les débats de Québec et Laval ont lieu 21 mars et 28 mars. D'ailleurs, on a plus de détails aussi là-dessus. Ce sera notamment le modérateur Pierre Jobin qui va s'occuper des deux débats de la Coalition Avenir Québec plus tard au mois de mars. Tu ris de Tumbler Ridge. Nouvelle information fracassante ce matin dans le Wall Street Journal. On dit que le compte de Jesse Van Rensselaer a été banni en juin dernier après avoir été signalé pour des publications troublantes, dont certaines évoquant des scénarios de violence armée. Ça, c'est l'information de ce matin. Et le ministre de l'Intelligence artificielle au Canada, Evan Solomon, lui dit avoir convoqué les représentants d'OpenAI à Ottawa pour discuter des questions de sécurité sur ces révélations-là, en voulant dire, si vous avez banni son compte, pourquoi vous n'avez pas alerté les autorités canadiennes comme quoi il y a peut-être une menace imminente? Et c'est justement l'excuse là, de OpenAI. On dit les
questions légitimes, par
tout
exemple.
Tout à fait. Donc, les publications, on dit, ne répondaient pas aux critères requis pour informer la police car elles ne comportaient pas de plan crédible ou imminent. Mais ça, c'était en juin dernier. On a banni le compte. Depuis ce temps-là, le plan, c'est clairement précisé, mais peut-être sur une autre plateforme ou encore de quelle manière. Donc, c'est OpenAI qui est maintenant convoqué pour donc répondre à davantage de questions. Là, on ne sait pas s'ils vont répondre par l'affirmative. On n'a vraiment pas beaucoup de détails, simplement faut observer ça.
OpenAI envoie un représentant ou c'est l'intelligence artificielle qui va répondre aux questions?
Exact. On n'a pas on s'attend à ce que les principaux responsables de la sécurité expliquent les protocoles en vigueur.
Mais on voit comment la vie a changé autour de nous autres. On en a un bel exemple. Il y a des responsabilités qui viennent avec certains aveux qui peuvent être faits avec des conversations, des chatbots puis toutes ces affaires-là. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut que l'humain intervienne aussi. Là. Si tu peux sauver des tragédies, si tu peux sauver des vies...
Parce que là, tu sais, l'exemple, celui-là, en fait, est frappant puis c'est un des premiers dans ce type-là sur les intelligences artificielles. Mais en juin, il y a des affaires qui sont pas correctes, on bannit le compte. Si tu le bannis pas en juin, puis que tu continues de récolter de l'information sur la plateforme d'intelligence artificielle, ça, peut-être que tu nourris la bête, ça c'est peut-être l'autre débat, mais de l'autre côté, là tu as des preuves de certaines choses
peut-être,
et là tu avertis la police. Et avant que ça arrive, ben peut-être qu'il y a des actions qui sont prises.
Je trouve ça très intéressant voir, tu sais, des fois, on se demande, tu sais, dans des cas, par exemple, d'agression sexuelle sur plusieurs années, que tu as un homme qui fait ça, mais il est marié avec sa conjointe depuis 25 ans, ça se passe sous un même toit, puis tu te dis, ben oui, mais c'est impossible que telle personne n'ait pas été au courant de quelque chose. Puis on se demande le degré de responsabilité ou des gens qui décident juste de s'aveugler à la vérité puis à l'évidence. Ça va être la même chose maintenant avec les machines, de dire à partir de quel moment on intervient puis à partir de quel moment il faut envoyer la police
parce
à quelque part.
Il y a bien des confessions qui se font là, sur les chats GPT de ce monde. Il y a eu ce problème-là au niveau des suicides, entre autres, avec l'intelligence artificielle de Snapchat, de d'autres médias sociaux.
Comment je fais pour m'enlever à vie sans me faire mal? Puis là, tu commences à avoir une recette, puis le détail, puis ça donne froid dans le dos, effectivement.
Alexandre Boulris, bon, là, ça semble se préciser, d'autant plus qu'en fin de semaine, on a passé cette fameuse motion chez Québec solidaire, comme quoi l'exception faite pour la circonscription de Gouin, que ce ne soit pas absolument une femme qui s'y présente.
Fait qu'on a des beaux principes égalitaires, sauf quand un candidat mâle de qualité se présente.
Mais ce sera la seule exception.
Ben oui, évidemment.
C'est crédible.
Donc, Québec solidaire, en l'espace d'une fin de semaine, est passé du parti de l'équité au parti qui est probablement le plus pro-masculin, parce que là, on dit « Ah oui, on est ouvert, nous, aux femmes et aux non-binaires, sauf quand un gars de qualité se présente. »
C'est épouvantable.
Même les conservateurs sont jamais allés là, en Alberta. Là.
Mais, puis là, de l'autre côté, tu sais, puis c'est niaiseux, parce qu'Alexandre Boulris, officiellement, il dit « Non, je suis encore en réflexion, là, réflexion sérieuse,
pour
les options sont
ça.
Ouvertes, j'ai un mandat, ça fait 15 ans que je suis député fédéral, etc. etc. » Fait que tu sais, s'il se présente pas, Québec solidaire a complètement pilé sur ses principes pour rien. Fait que d'après moi, il va se présenter parce que
qu'il n'y a pas le choix.
Il aurait de l'air complètement fou.
Eux autres ont de l'air fous, en tout cas.
Exact. Et voilà, donc, ça se précise clairement. Là, il devrait être un candidat pour Gouin. Travaux du tramway, juste mentionné que, certains détails sur la firme qui va réaliser les travaux de déplacement des réseaux souterrains dans Montcalm et dans Limoilou, mais aussi demain, point de presse de la ville, on va présenter l'état d'avancement de la planification des chantiers 2026.
On va avoir d'autres belles questions à poser au maire, j'imagine, avec les informations qui vont être
les
communiquées
arbres.
Demain. Oui.
Je pense que ça va faire partie de ça, ou du moins, il y aura des questions qui seront posées. Parce que justement, déplacement de réseaux souterrains, on le comprend, mais aussi les travaux dans Montcalm, sur René Lévesque, sur la Première Avenue, dans les prochaines semaines, vont être précisés. Il y a eu un événement qui a été annulé par la ministre Caroline Proulx au cours des en 2023. Et il y a un débat là-dessus, du moins, c'est maintenant judiciarisé et ça se passe donc pour l'événement au Centre des congrès qui s'appelait, je l'avais tantôt, Fois Feu et Liberté.
Okay.
Ça devait avoir lieu pendant 10 jours au Centre des congrès à Québec le 1er juin 2023.
C'était quoi le sujet de...
C'était que c'était un événement, je vais te donner les titres là, associé au fait que l'avortement a fait de l'utérus de la mère l'endroit le plus dangereux pour un enfant au Canada.
Je me souviens là.
Quand la ministre a lu ça, elle a annulé l'événement à 20 jours d'avis.
Oui.
Et depuis ce temps-là, évidemment, l'événement, le fondateur de HMI, le groupe évangélique qui est basé en Colombie-Britannique pour cet événement-là. Lui,
ça, c'est un gars qui veut dire aux femmes quoi faire avec leur utérus.
Il dit...
Mansplain-nous ça, champion.
Son mouvement est résolument pro-vie. Il dit que c'était pas un événement pro-vie, mais tout ça pour dire que la résiliation du contrat à 20 jours de préavis a dépourvu son organisme, qui n'a pas réussi à trouver un lieu alternatif malgré plus de 40 tentatives auprès d'autres établissements. Et c'est pour ça qu'il réclame donc 30 000 $ pour les pertes découlant de la résiliation de son contrat, 50 000 pour dommages punitifs au ministère.
C'est touché parce que tu veux pas... C'est probablement qu'il y a un point légal, le gars en question là, qui veut expliquer aux femmes quoi faire avec leur utérus et leurs enfants. Un point légal, ça veut pas dire que tu as un point éthique, puis ça veut pas dire que tu as un bon point non plus. Mais tu sais, dans l'espace public, est-ce que la liberté d'expression, c'est de laisser n'importe qui dire n'importe quoi, ou tu fais des choix puis tu te dis « eux autres, ils n'ont plus le droit de parole » ou « ils peuvent plus aller dans un établissement qui est géré » par le gouvernement.
C'est ça.
C'est un petit peu ça là, qui est touché.
Ça, c'est le point de Caroline Proulx. D'un, elle dit « Je prendrais la même décision avec aussi peu d'hésitation. » Donc, elle n'a pas changé d'idée. Mais aussi,
à sa place, j'aurais fait pareil en passant.
Elle dit « Il y a un consensus assez large au Québec autour de la question de l'avortement. Il n'y aurait pas eu de problème à ce que l'événement soit tenu dans un lieu privé, mais de le faire au centre de foire, ça, c'était pas possible. » Donc, c'est le débat qui se poursuit cette semaine là-dessus.
Une dernière.
Ben, Ouais, OK, Trump, avec les droits de douane.
Oh.
Parce qu'il a menacé aux pays qui joueraient là, avec les conséquences de la décision de la Cour suprême d'imposer des droits beaucoup plus élevés. Donc en la matière, parce que justement, là, la décision de la Cour suprême, ça fait en sorte que ça le place dans une position un peu de faiblesse et il fait des menaces comme quoi si jamais vous profitez de cette faiblesse-là, je vais vous punir avec encore plus de violence. Donc déjà qu'il a fait monter ses nouveaux droits de 10 à 15 % en fin de semaine, il ajoute ça. Il veut tous ceux qui ont plumé les États-Unis pendant des années ou même des décennies seraient confrontés à un droit de douane beaucoup plus élevé. Oh. Puis l'Europe a commencé d'ailleurs à se poser des questions sur le changement de la décision de la Cour suprême.
L'équivalent adulte d'une crise de bacon dans un centre commercial. 17h28. On s'arrête quelques instants, on vient. Gravel. Je veux prendre le temps de le glisser avec tout ce qui est arrivé en fin de semaine, la fin des Olympiques, la fin des Pee-wee, la game de hockey. C'est peut-être une info que vous n'avez pas vu passer, mais moi, dans ma tête, tout le monde connaît Raymond Bouchard, le comédien qui est décédé à l'âge de 80 années, père de deux filles, Caroline et Isabelle. Raymond Bouchard, qui était né à Lauzon. Pour les plus jeunes, Lauzon, là, c'est une ville qui a été fusionnée à Lévis avant les fusions de Québec. Donc, en 1945, né du côté de Lauzon. Raymond Bouchard qui a fait du théâtre avec des rôles de répertoire. Puis au cinéma, c'était le gars qui était capable d'aller dans les extrêmes. Puis moi, c'est ce que j'aimais de ce gars-là. Il était capable de te faire brailler d'un rôle intense. Puis après ça, il était capable d'avoir le rire le plus épais de l'histoire du cinéma québécois dans Ding et Dong, le film.
Okay.
Il jouait Gaétan. Pas Gaétan, Gaétan.
Gaétan.
Et Gaétan avait un rire incroyable que je ressors une fois de temps en temps après une joke de mon oncle. Là. Ce rire-là. Là.
Okay, c'est lui, ça.
Ah non, non, Raymond Bouchard, je le trouvais tellement drôle.
Il n'était pas à la retraite. Là.
Il était actif encore.
Le 2 mois. Là.
C'est un virus. Il a été infecté par un virus. Il était hospitalisé à l'hôpital de Verdun. Puis ça semblait pas nécessairement une maladie de longue date. Beaucoup de télévision aussi. Il a joué dans Annie et ses hommes, Les Dames de cœur, Scoop, L'or et le papier. Il avait reçu le prix Gémeaux pour la meilleure interprétation dans un premier rôle masculin dramatique en 1990. Pour moi, c'était comme un genre de Rémi Girard, là, ouais. que tu étais capable de prendre puis d'y faire à peu près n'importe quoi.
Ouais.
Donc, il est décédé en fin de semaine. 8 décennies d'âge, on a perdu un autre acteur important des dernières décennies au Québec.
Le rock'n'roll a vu le jour dans les années 50. De l'invasion britannique en passant par le prog, le hard rock, le grunge et le rock des années 2000. Du vinyle au streaming, voici l'histoire du rock dans Gravel dans le retour.
Dans l'histoire du rock, un 23 février 2019, pour la première fois depuis les Beatles, une artiste occupe les 3 premiers spots du US Hot 100 dans la même semaine. Qui est-elle en 2019? Au numéro 3, Thank You, Next. Au numéro 2, Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored.
Ariana Grande. Ouais.
Et au numéro 1, Seven Rings, la première et la seule depuis les Beatles à l'avoir faite.
Ouais, c'est pas le premier nom qui me serait venu en tête si t'avais pas nommé toi.
Je pourrais me lancer dans un long éditorial sur la qualité musicale qui se détériore, mais ça me tente pas. Ça me tente pas de faire mon oncle Gravel aujourd'hui.
Voyons.
Un 23 février 2017, il devient le premier rapper à être intronisé dans ce qu'on appelle le Songwriters Hall of Fame, donc les plus grands
auteurs
de chansons. Dans le temple de la renommée des songwriters, il y a Marvin Gaye, il y a Bob Dylan, il y a Dolly Parton, il y a Bruce Springsteen, il y a Michael Jackson. Et qui a été le premier rappeur à être intronisé?
Vas-y donc.
Jay-Z. I don't know what you take me as or understand the intelligence that Jay-Z has. I'm from rags, the richest niggas, I ain't dumb. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Hit me.
Quelle belle chanson d'amour, pareil.
Hein? Oui, quand même.
Ouais.
Hein, oui.
C'est ça. Moi, quand je dis ça à ma blonde, honnêtement, ça attripe.
Chérie, chérie, j'ai 99 problèmes, mais toi, bitch, t'en es pas
c'est
un.
C'est ça, exact.
Frappe-moi.
Je sais pas si...
C'est
traduction libre un peu.
Ouais,
mais...
c'est de la poésie. Hein?
Exact. C'est
de
qu'attripe.
De la poésie moderne. On est loin de Bob Dylan, on s'entend. Un 23 février 2010, le gouvernement déclare que les studios Abbey Road de Londres font maintenant partie du patrimoine à protéger, patrimoine culturel et patrimoine historique, parce qu'il y avait des projets de faire certaines modifications dans ce secteur-là de la ville. Les Beatles ont utilisé les studios Abbey Road pour 90% de tout ce qu'ils ont enregistré. À l'époque, on l'appelait le EMI Studios, mais à partir du moment où les Beatles ont fait le fameux album Abbey Road, qui, pour plusieurs, est leur meilleur, ben c'est devenu les studios Abbey Road. Un 23 février 2003, c'est la cérémonie des 45e Grammy Awards. Et il y en a une qui fait ce qu'on appelle un coup de balai, un balayage, un sweep. Cette année-là, c'est l'année de Norah Jones. Écoute, tu sais que je suis difficile sur les voix féminines. Ça, c'en est une qui vient me chercher à tous les coups. C'est pas juste parce qu'elle est belle pis sexy, là.
Ça, c'est ta première impression.
C'est aussi.
Mais, après,
mais la voix est belle et sexy aussi. Incroyable. Donc, elle gagne l'album de l'année, l'enregistrement de l'année, chanson de l'année, meilleure nouvelle artiste et meilleure performance vocale féminine. Tout ça pour la pièce Don't Know Why. I would die. Les cérémonies de Grammy se suivent et ne se ressemblent pas. Et encore une fois, on pourrait peut-être partir sur un grand éditorial pour dire que la qualité des enregistrements n'est plus ce qu'elle a déjà été. Mais passons des Grammy Awards de 2003 aux Grammy Awards de 1978. 20e cérémonie des Grammy Awards. Juste vous dire que cette année-là, ben, l'enregistrement de l'année, c'est une petite chansonnette là, que vous avez peut-être oubliée. Hotel California des Eagles.
Pas surutilisé pantoute.
Dans la même cérémonie ce soir-là, l'album de l'année, c'est Fleetwood Mac avec Rumors. Quand je vous dis que c'était une grosse année en 1978, ben la meilleure performance pop vocale, c'était les Bee Gees avec How Deep Is Your Love. Bon, vous trouvez ça smooth un peu, là, on va changer de registre.
C'est du rock, là?
Un 23 février 1976, AC/DC tourne le clip de It's a Long Way to the Top. If you want a rock and roll. L'industrie du show business australien a marqué son 75e anniversaire en 2001 en faisant le top 100 des plus grandes chansons de l'histoire de l'Australie. It's a Long Way to the Top d'AC/DC s'est retrouvé au numéro 9. C'est toujours intéressant de voir l'évolution d'un band. Et s'il y a un band qui a changé souvent de style et pas rien qu'un peu, c'est Genesis. Il y a, mon Dieu, un grand nombre d'années, j'ai pas ma calculatrice, mais un 23 février 1968, Genesis enregistre sa toute première chanson de Silent Sun. The motion of a turning wheel. Avec un très très jeune Peter Gabriel.
Il a 58 ans.
Ouais, mais tu viens de le calculer avec ta calculatrice.
Absolument, je
t'as pas de crédit.
La chanson avait un seul objectif, impressionner le producteur qui avait assisté à la même école où allaient Tony Banks et Peter Gabriel. Ils savaient une chose du gars, c'est qu'il trippait ses Bee Gees, fait qu'ils ont essayé d'y faire une toune des... J'étudie Bee Gees, c'est les Beach Boys.
OK, come on.
Et pendant ce temps-là, en 1965, et on termine l'histoire du rock là-dessus, un 23 février, on commence à tourner, pas un classique du cinéma, mais tu sais, quand c'est les Beatles... Début du tournage de A Hard Day's Night.
T'as des... toutes les dates de ton histoire du rock fit avec les... Il y a tout le temps quelque chose des Beatles, si tu veux. Hein?
Écoute.
Attends, pendant un bout, c'était Genesis. Là.
Ouais, ah, ouais, aussi.
Les Beatles, je suis obligé de sauter des journées ouais, parce qu'à tous les jours, il y a quelque chose. C'est sûr. Ben, tu veux un petit bonus, vu que t'aimes bien Genesis, Audrey?
Vas-y.
Parmi les très jeunes figurants du film A Hard Day's Night, un jeune comédien en devenir, un certain Phil Collins.
Un 27 février 1968, oui. John Lennon achète des lunettes rondes pour la première fois.
Oui,
et
ça.
Finalement, ça devient sa marque de commerce.
Hey, tu sais, dans ces affaires-là, t'as tout le temps des affaires de vente aux enchères, ouais. Là, de feuilles de parole, de vieux pianos, puis d'affaires. À un moment donné, il faut que tu fasses le tri là-dedans. Là. 17h44, on s'arrête, on revient.
Gravel, elle dans le retour, le plus solide duo depuis Jack et Meg White.
Je sais que Radio-Canada s'est spécialisé dans les dernières semaines à nous pondre des mini-reportages sur nos athlètes olympiques. Puis à chaque fois, on vient comme fier, on vient comme fébrile, on vient comme émotif quand on se fait présenter les récits périlleux de ces gens qui ont réussi à se rendre aux Jeux olympiques. Moi, je trouve que c'est ce que Radio-Canada fait de mieux, ce genre de documentaire-là, ce genre de reportage-là. Donc, je vais essayer de m'en inspirer pour vous présenter la personne avec qui on va terminer notre Gravel dans le retour du lundi 23 février.
Tu vas le gêner.
Probablement. Propulsé par une conférence de l'Olympien Dominique Gauthier, Nicolas Leclerc a décidé de plonger. Sans préavis, il a quitté pour l'Italie pour essayer de vivre l'expérience olympique. Il ne le regrettera pas. Il verra des médailles, des déceptions. Je suis resté stallé, hein?
C'était pas voulu.
Je pensais que c'était voulu.
Ouais, ouais, je pensais que c'était
c'est peut-être un jeu. C'est peut-être le début de quelque chose.
Ouais, ouais.
Ouais. Ah, ça me tente plus, là. C'est-tu de même ça commence à être sénile? Je veux juste être sûr.
La démence, oui.
Oui, hein?
Ouais. Ouais, tu perds tes mots, t'oublies. Okay.
Ouais, ouais. OK. Fait que si je tombe à terre, tu t'appelleras
ça dépend
quelqu'un. Je vais prendre soin de toi, mais là, je te conseille d'aller le rejoindre parce qu'il est dans le fil à l'aéroport. Fait que
bon,
peut-être qu'il va
on va
se
aller
faire
le déranger.
Arrêter,
là. Il est en train de quitter. Là. Il est à l'aéroport, notre patron Nicolas Leclerc. Comment ça va?
Salut, Denis. Salut, toute l'équipe. Comment ça va?
Ben oui, ça va. Hey, t'as vécu tout un trip, hein, au total tout, là?
Incroyable. C'est difficile de demander mieux en termes de trip olympique. Là, je suis encore sous le choc de tout ce qui m'est arrivé au cours des derniers jours. J'ai commencé lundi dernier, en fait. Donc, ça fait exactement une semaine que je suis parti, puis j'ai eu le temps d'en voir pas mal. Puis comme tu dis, effectivement, des belles victoires, mais aussi quelques déceptions à travers tout ça.
Ouais, c'est ça. Demander mieux peut-être des médailles d'or olympiques pour nos équipes de hockey. Ça, c'est sûr.
Ouais, entre autres, parce que j'étais là pour les deux matchs de médailles d'or. Et malheureusement, ben ça s'est soldé tous les deux par des défaites, mais en même temps, la médaille d'argent. Donc, c'est pas un mauvais nom.
Tu y retournes pas en France, c'est garanti. C'est toi qui portes la poisse.
C'était quoi l'ambiance dans l'aréna? Puis c'est que comment t'as vécu ces moments-là? Parce que veux pas, nous autres, hier matin, on était tous scotchés en avant de nos TV. Comment c'était l'ambiance à l'intérieur de l'aréna?
Ah, c'était incroyable. Quand j'ai assisté au quart de finale, au demi-finale, j'avais dit que l'ambiance était extraordinaire, mais là, c'était même pas comparable à ce qu'on vivait. L'amphithéâtre était vraiment divisé en deux. Il y avait les Américains d'un côté, il y avait les Canadiens de l'autre. Dans ma section, j'étais entouré par autant les Canadiens que par des Américains. Donc, au premier but, ça s'est mis à crier, ça sautait de joie, puis toutes les autres étaient dans un état de consternation. Fait que ça a été vraiment en deux temps là, d'avoir réussi, au moins d'avoir assisté à un but pour remonter là, 1-1. Ça a été l'enthousiasme de tous les partisans était extraordinaire. Là. Tu sais, tout le monde se fait des high fives dans l'aréna. D'un banc à l'autre, d'une rangée à l'autre, c'était extraordinaire. Fait que déjà là, j'étais comme, OK, là, c'est merveilleux ce que je suis en train de vivre. Puis même s'il s'en allait avec la médaille d'argent, on pourra pas me l'enlever. J'étais là au moment de ce fameux match de la médaille d'or. Puis c'était vraiment une rivalité extraordinaire. Puis, c'est le Canada, il a vraiment, vraiment bien joué, là, cette game-là. Là, on s'entend, là, c'est vraiment une histoire de 3 contre 3 en prolongation là, qui a créé ce scénario un peu désastreux, mais au final, très satisfait du match et de l'équipe du Canada.
Mais tu dis les gens se faisaient des high-fives, donc tu étais dans une section Canada ou c'est à peu près réparti 50-50? Y avait-tu plus de Canadiens que d'Américains dans la foule?
Ben, écoute, je pense dans la poule et dans ma section, c'était la même chose, c'était 50-50. Fait que moi, j'avais d'un côté de moi des Canadiens, de l'autre côté, directement de moi, c'était les Américains. Puis quand on a scoré, ben là, évidemment, c'était la F5 entre les Canadiens. Les Américains étaient très tranquilles. Mais quand ça finit en prolongation 2-1, je dois te dire que là, c'était tout le contraire. Là. Tous les Canadiens sont restés assis sur les bancs, tranquilles. On disait pas un mot. C'était juste on regardait avec désarroi ce qui venait de se passer. Alors que les Américains, mais ça hurlait, ça sautait, c'était. C'était triste pour nous. Écoute, je suis sorti pas trop longtemps après là, parce que ça me tendait plus de vivre ça. Et puis là, je me faisais suivre par des Américains qui disaient « Ah, triste journée pour être un partisan canadien aujourd'hui. » Alors, on se faisait un peu insulter en plus, mais écoute, ça fait partie de la game. Là. C'était quand même mémorable comme expérience.
Nick, si on fait exception du hockey, c'est quoi les plus beaux moments olympiques que tu as vécu en Italie?
Écoute, c'est sûr que la médaille d'or de l'équipe féminine en